Alors, donc, ce matin, nous allons terminer notre prédication, la série d'enseignements qu'on a commencé avec le thème quoi? C'est quoi le thème?
Résister.
Résister. Alors, nous devons résister à quoi? Résister à quoi? À la tentation. Et la tentation, c'est vague. C'est quoi d'autre auquel nous devons résister? L'ennemi. C'est qui l'ennemi? C'est ton voisin? C'est ton patron? Le diable. Ok. Bon, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Bon, c'est bien. Alors, ce matin, nous allons continuer la suite de cet enseignement-là. On va terminer sur le combat spirituel avec la prière, sur le ton de la prière. Pendant 3 semaines, nous avons été enseignés, exhortés, sensibilisés par rapport au combat spirituel. Le monde spirituel existe. Il y a une guerre qui se fait. Que soyons chrétiens ou pas, c'est des choses qui sont vraies et qui existent. Notre rôle était de vous sensibiliser par rapport à cela. Dès le premier jour que vous êtes né spirituellement, que vous êtes rentré dans le monde chrétien, vous êtes devenu ennemi du diable. Quand on choisit de marcher avec Jésus-Christ, alors tu es en train de déclarer au diable que tu ne veux plus de lui. Et quand il dit tu ne veux pas de lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'attaquer. Il va essayer de te poursuivre. On peut voir que même dans l'Ancien Testament, quand Israël est sorti de l'Égypte et que Dieu les a délivrés, quand ils partaient, ils étaient arrivés devant la mer Rouge. Qu'est-ce que Pharaon a fait? Il les a poursuivis. Pourquoi? Il voulait les ravoir encore, les rattraper, les ramener chez eux, chez lui, et continuer de les garder comme esclaves et les faire travailler pour sa cause. Alors, quand nous quittons le diable, l'ennemi va toujours essayer de nous courtiser par différentes manières et de différents moyens pour essayer de nous ramener à lui et de nous garder sous son joug et de continuer de nous maltraiter. Il va nous miroiter le péché comme quelque chose de luxueux, de beau et d'intéressant. Il va amener plusieurs autres formes de tentations devant nous pour nous amener à nous ou nous empêcher à vivre une vie sainte, une vie honorable, une vie digne de ce nom, une vie qui donne gloire à Jésus-Christ, une vie épanouie pour le croyant en Jésus-Christ. Donc, le rôle du diable est de te voler ta joie ce matin. Le rôle du diable est de te voler ta joie tous les jours. Le rôle du diable est de faire de toi un chrétien piteux, un chrétien qui n'a pas de joie, un chrétien aigri, un chrétien qui marche la face longue comme un cheval qui a bu de l'eau chaude, un chrétien qui est toujours en train de se plaindre comme un chihuahua. Alors, donc, ce matin-là, je voudrais que tu saches que Dieu ne veut pas que tu sois comme ça. Dieu ne veut pas que tu sois un chihuahua. Il ne veut pas que tu aies une face longue tous les jours. Il ne veut pas que tu sois un chrétien malheureux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de souffrance. Il y a des difficultés que tout le monde peut rencontrer dans la vie. On ne le niera pas. On ne mettra pas notre tête dans le sable pour croire qu'il n'y a pas de problème. Ce n'est pas vrai. La Bible nous dit que quand tu appelles à marcher avec Jésus-Christ, tu es appelé à souffrir. Il dit, prépare-toi à souffrir. Comme le maître a souffert, tu vas souffrir. Si tu marches dans la droiture, si tu souffres parce que tu es chrétien, il dit, n'en aie point honte, réjouis-toi. Parce que c'est comme ça les hommes de Dieu et les femmes de Dieu ont été traités. Donc, tu n'es pas traité différemment. Tu dois avoir de la joie et la paix pour cela. Mais si tu es persécuté, si tu souffres parce que tu convoites le monde, parce que tu as un pied dans le monde, un pied avec Jésus-Christ, ça, c'est toi qui le cours après. Ce n'est pas Dieu qui veut que tu sois comme ça. Tu deviens malheureux. Comme je l'ai souvent dit, essayer de marcher, les jambes écartées, un pied dans le monde, un pied avec Jésus-Christ, tu marches, mais tu n'iras pas loin longtemps. N'est-ce pas? Donc, un pied dedans, un pied dehors, c'est 2 pieds dehors. Donc, nous devons être authentiques dans notre foi chrétienne. Marcher avec Dieu sans compromis. Alors, Stéphane nous a passé, il a parlé des armes avec Denis Gay. Comment Dieu nous a équipés à prendre des armes spirituelles. Ces armes-là sont dans le dépôt de Dieu. Ça est là, dans la poudrière. Dans un camp militaire, il y a une poudrière où tout est là, où les armes sont alignées pour que tu puisses aller te servir. Donc, dans la poudrière de Dieu, il y a ces armes-là pour nous équiper. C'est à nous de les prendre. Et Stéphane Denis nous a montré comment on pouvait prendre ces armes-là et comment nous devons les porter pour pouvoir se battre dans le combat. Et ce matin, mon but est de vous montrer que si tu as porté des armes et que tu es assis, ça ne fait rien. Tu ne vas pas loin. Mais quand tu portes les armes, tu dois être sur le front. On porte les armes pour aller au front. Amen. On ne porte pas les armes pour s'asseoir dans son salon avec Nintendo, avec les jeux vidéo, les Xbox. Ce n'est pas ça. Quand tu portes les armes, tu dois être sur le terrain pour te battre. Amen. Alors, avant de continuer, j'aimerais que nous ouvrons nos Bibles dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Mais pour moi, je vais lire à partir du verset, je ne sais pas, on va voir où je vais commencer. On va commencer du verset 10 à 20. Pour nous mettre dans le contexte. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa grâce toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités et contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de résister, de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18, qui est le texte sur lequel on va se prononcer ce matin. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints et priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors, ici ce matin, nous allons parler réellement, mon plan d'action, je vais vous le présenter, ce qu'on va voir tout à l'heure rapidement. Les caractéristiques de la prière dans le combat. Et on va voir que nous devons, les points qui sont là, prier en tout temps, prier par l'esprit, prier avec persévérance, prier pour tous les saints. Et on va arriver à la conclusion. Et après, on va partir chez nous. Hein? Ça va ça? Bien. Paul, dans Éphésiens, quand nous regardons, nous voyons que l'apôtre Paul écrit réellement. Il est en prison, il est incapable de sortir, comme un général qui essaye de motiver ses troupes à l'extérieur pour leur dire, il y a une bataille qui existe, faites cette bataille-là, gagnez cette bataille-là, ne baissez pas les bras, persévérez. Et après avoir donné plusieurs exhortations au précédent, avant, qu'on a vu déjà, je ne reviendrai pas sur 3 semaines d'enseignement, mais c'est pour vous rappeler qu'ici, l'apôtre Paul sensibilise la troupe à Éphèse. Les chrétiens, de mener un bon combat. Vous êtes équipés. Mais maintenant, ça ne suffit pas. Vous devez maintenant exercer ce combat-là sur le terrain de la prière. Il les exhorte à cela. Alors, il leur parle, faites en tout temps des prières. Mais avant cela, quand l'apôtre Paul finit de dire tout ça, il les exhorte à marcher pour lui, et pas pour lui personnellement, pour Dieu, et à gagner le combat, à ne pas baisser les bras, parce que ce n'est pas facile, c'est difficile. Alors, j'aimerais que nous regardions ce truc que je vais vous faire voir. Charlotte Elliott a écrit des cantiques. C'est quelque chose que j'ai déjà présenté dans le passé. Et cette dame-là était en Angleterre, elle était malade, elle était souffrante, elle était devenue aigrie. Et puis elle en voulait à Dieu, elle en voulait à sa famille. Elle parlait mal à tout le monde. Et quand le pasteur est allé la visiter, elle a commencé à parler durement à sa famille, à ses parents, parce qu'elle souffrait d'une douleur et elle ne trouvait pas de solution, elle n'était pas soulagée. Elle insultait tout le monde. Même ses parents étaient tellement gênés qu'ils sont sortis de la salle. Puis le pasteur a parlé avec elle. Vous savez, pour faire une histoire courte, cette femme, c'est elle qui a écrit « Tel que je suis ». « Je viens à toi tel que je suis ». Elle a écrit plusieurs chants comme ça. Et après avoir été touchée, elle a écrit ce chant, « Tel que je suis, je viens à toi, sans rien à moi. » Et c'est elle qui a écrit ces paroles de ce chant encore. Elle écrit ceci, « Chrétien, ne te repose pas encore. Laisse tomber tes rêves faciles. tu es entouré d'ennemis. Veille et prie. La nation et les autorités rassemblent leurs forces invisibles et attendent tes moments d'inattention, tes moments où tu n'es pas sur tes gardes, tes moments où tu ne fais rien, où tu penses que tout va bien, les moments où tu es couché sous ton laurier, les moments où tu es en train de boire quelque chose que tu es content de faire et que tu n'es pas sur tes gardes, où tu as baissé tes gardes. Et là, on dit l'ennemi est là. Il dit veille et prie. Veille et prie, comme si c'était de ça que dépendait la victoire. Prie que l'aide te vienne d'en haut. Veille et prie. Si cette parole était vraie pour Charlotte Elliot, dans son temps et les chrétiens de son temps, alors elles le sont encore aujourd'hui, elle est d'actualité. Le chrétien ne peut pas baisser sa garde. Le chrétien est appelé à veiller, à prier. Comme une mère qui veille sur ses enfants. À chaque instant, une maman, elle travaille dans la cuisine, elle regarde où les enfants sont. Si elle voit qu'ils sont trop silencieux, elle dit, ils sont en train de faire un dégât quelque part. N'est-ce pas? Tous les parents savent ça, hein? Alors, donc, les mamans, ça veille. Les papas, ça veille. Quand on traverse la route ou on va dans un spectacle, on veille que notre progéniture soit auprès de nous. Pourquoi? Parce qu'ils sont exposés à des dangers. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas conscients de certains dangers auxquels ils sont exposés, qui peuvent être volés, ils peuvent être pris par des pédophiles, par n'importe qui, des prédateurs. Alors, on veille sur eux. Et la Bible nous dit, en tant que chrétiens, vous et moi, nous devons veiller sur notre âme, parce que le prédateur, c'est le diable. Il veut voler notre âme, il veut voler notre joie, il veut voler notre vie, il veut voler notre passion, il veut voler notre couple, il veut voler nos enfants, il veut détruire toute notre progéniture. Veille et prie, frères et sœurs. Veillons et prions. C'est ce que l'Écriture nous dit. Ne faisons pas. Je vous assure, personne ne le fera. Personne d'autre ne va le faire. C'est le peuple de Dieu qui peut prier. Et l'Écriture nous appelle à cela. Alors, les caractéristiques de la prière. Si je suis dans le combat, on veut résister. Résister et tenons ferme. C'est les deux mots clés qui viennent dans ce passage. Résister et tenez ferme après avoir tout surmonté. Quand je résiste à quelque chose, je tiens mes parties, la partie que j'ai, je fais tout pour ne pas reculer. Mais quand on dit de tenir ferme, alors toute partie que j'ai possédée, que j'ai eue en possession, je les maintiens et je ne recule pas, j'avance. Et dans Josué chapitre 1, à partir du verset 8, et Dieu parle, même avant le verset 8, Dieu commence à parler à Josué. Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort, mais c'est toi qui vas amener ce peuple dans la terre promise que j'ai promis de leur donner. Sois fidèle, tiens bon. Il dit, toute terre que la plante de tes pieds fouleront, je te le donnerai en possession. Toute portion de terre que la plante de ton pied foulera, je te donnerai en possession. Ça voudrait dire que quoi? Quand Josué avance, il prend une terre, il ne recule pas. Il maintient et il avance encore. Il maintient, il avance, il maintient. Amen. Et dans notre vie, dans notre marche chrétienne, quand nous prenons possession sur une partie, nous devons maintenir et avancer. Ça veut dire quoi? Tu as dominé le péché dans ta vie, il y a un péché qui te fait trop de mal, tu as réussi à avoir la victoire dessus, tu tiens cette partie-là, tu es en résistance et tu tiens ferme pour ne plus reculer, pour retomber de tapis, être en train de vomir, de te vautrer dans le péché comme un cochon. Alors, tu retiens ton point et tu avances. Tu veux gagner des terres, des victoires en victoires, de succès en succès. Je tiens, je maintiens et j'avance. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? En tout cas, même ceux qui sont sourds m'entendent. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Prie en tout temps. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Prier en tout temps. Ça voudrait dire prier toujours. Prier constamment. Prier à chaque fois que c'est possible, sans se relâcher. Priez bon temps ou mauvais temps, dans la joie ou dans la tristesse, dans la maladie ou dans la santé, dans la pauvreté ou dans la richesse, et dans toutes les conditions. Si tu es célibataire, prie. Tu es marié, prie. Ta femme t'a quitté, prie. Ton mari t'a quitté, prie. Ta maman est morte, prie. Ton papa est mort, prie. Et toutes les circonstances sont des moments pour le chrétien enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit selon Éphésiens 5, pour transformer toutes les situations difficiles en une situation de prière. Amen. Nous devons être capables de transformer toutes les situations difficiles en situation de prière. On dit, si tu n'as pas d'autre chose, on te donne que des citrons, sois capable de transformer des citrons en limonade. Au lieu de te prendre, c'est de citron. Mais tu transformes les citrons en limonade. Donc, change ta condition de vie par la prière. Dieu ne nous donne pas ces armes-là pour rien, parce que c'est nécessaire, frères et sœurs, pour nous. En tout temps, à tout moment. Et si nous devons prier en tout temps, nous devons être capables de prier en tout lieu. Nous devons être capables de prier en tout lieu, parce que l'ennemi qui est contre nous, le diable qui nous poursuit dans les Écritures, il ne distingue pas une place. Il n'y a pas un endroit où il va dire, bon, ça c'est trop saint, je ne rentre pas, je vais attendre à la porte. Vous pensez que le diable est à la porte ou bien il est dedans ici? D'après vous, le diable, s'il se promène, il est où présentement? Il est partout. Et la Bible nous dit qu'il rôde comme quoi? Qui fait quoi? Un lion qui rôde là, il fait quoi? Il cherche qui va dévorer. Je vous demande, vous pensez que le lion là, il rôde dans McDo? Le lion, il rôde où il y a les animaux, où il y a le gibier, où il peut avoir du gibier. Alors le diable là, il est peut-être même assis dans les sièges avec nous ici, avec ses agents. On ne les connaît pas tous. Alors le diable est là. Quand nous regardons dans le livre de Job, le diable était où quand Dieu faisait sa réunion? Le diable est venu se pointer là, non? Il était dans la réunion avec Dieu. Et Dieu lui pose la question, d'où viens-tu? Il dit de me promener sur la face de la terre. As-tu vu Job, mon serviteur? N'est-ce pas? Vous connaissez toute l'histoire. Alors, si le diable peut être là-bas, il peut être ce matin parmi nous. Maintenant, veille et prie. Alléluia! Amen! C'est un endroit où on peut prier en tout temps et en tout lieu. Que tu sois aux toilettes, que tu sois en train de te brosser les dents, que tu sois dans ta chambre, que tu sois dans le garage, tout endroit pour un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, comme le dit dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. » Alors, ce passage-là s'adresse à des chrétiens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit transforme toutes les situations et toutes les circonstances à un lieu de prière, à une situation de prière. C'est ça notre rôle. Et ça, c'est ce que le monde n'est pas capable de faire. Que Dieu nous a donné le don du Saint-Esprit pour être capable de faire cela. Priez en esprit. Priez non seulement partout, en tout temps, en tout lieu, mais nous devons prier par l'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire, prier par l'esprit? Faites en tout temps toutes sortes de prières. Priez en tout temps par l'esprit et toutes sortes de prières et de supplications. Qu'est-ce que ça voudrait dire prier en esprit? Est-ce qu'on dit, je prie en esprit comme ça? C'est quoi prier en esprit? Prier en esprit, c'est prier selon la volonté de Dieu. Prier en esprit, c'est prier selon la parole de Dieu. Prier en esprit, c'est prier selon la direction de Dieu. C'est se laisser inspirer par le Saint-Esprit et marcher dans la direction de Dieu et faire ce que Dieu nous demande. Et Jésus priait tout le temps par l'esprit. C'est pourquoi il n'a jamais péché, c'est pourquoi aucune de ses prières n'est restée inexaucée. Parce qu'il le dit devant le tombeau de Lazare, dans Jean 4, il dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces de temps en temps. » Non, de ce que tu m'exauces toujours. Parce qu'il priait par l'Esprit. Il priait à tout moment. Et l'ennemi ne pouvait pas le vaincre. Nous devons prier par l'Esprit. Pourquoi? Parce que celui que nous combattons est spirituel. Et la Bible nous dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les dominations, contre les pouvoirs dans les lieux célestes. Alors, c'est cela que nous avons à combattre. C'est pourquoi nous devons prier par l'Esprit. Vous savez, on peut faire plein de choses par la chair. On peut travailler par la chair. On peut faire le ministère de l'école du dimanche par la chair. Même pendant que je prêche là, je peux prêcher par la chair. Mais Dieu veut que quand on est enfant de Dieu, on est rempli de l'Esprit, on doit faire tout par l'Esprit. Et quand les choses sont faites par l'Esprit, ce n'est plus difficile. Ce n'est plus compliqué tel que cela, parce que c'est l'Esprit qui te mobilise, qui est le moteur en toi, qui te sensibilise et amène. Il décante les choses pour nous. Prier par l'Esprit, c'est prier selon la volonté de Dieu. C'est prier selon le plan de Dieu. Donc quand je prie, je ne suis pas en train de chercher à plier la volonté de Dieu sous ma volonté. Parce que certaines personnes pensent que quand on rentre dans la salle de prière, c'est un lieu pour des revendications syndicales. Non, 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 non. La salle de prière n'est pas un lieu de revendication syndicale. Ce n'est pas un lieu pour pouvoir aller déposer toutes nos oléances et puis demander quoi que ce soit, ou de plier la volonté de Dieu. Bon, il ne m'a pas exaucé, mais je vais gêner. Je vais prier. Il va savoir qui va faire ma volonté. Non. Quand tu rentres dans la prière, tu es en train de demander, plaider à Dieu de te faire faveur, de te faire grâce. Nous avons besoin de prier par l'Esprit, parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît les plans de Dieu. Et la Bible nous dit dans Romains 8, verset 6, il dit, « Car nous ne savons comment prier, car l'Esprit lui-même prie par des soupirs inexprimables. » N'est-ce pas? L'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et quand l'Esprit de Dieu prie pour nous, parce que l'Esprit connaît le plan de Dieu, l'Esprit connaît la volonté de Dieu, l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu, l'Esprit est Dieu lui-même, la troisième partie de la Trinité, donc il connaît les plans de Dieu. Donc quand il plaide pour toi, tes doléances vont être exaucées. C'est-à-dire que quand il dépose ton CV devant Dieu, Dieu ne refuse pas. Ton CV là, si le Saint-Esprit dépose devant Dieu, il ne refuse pas. Dieu prend. Amen. Donc voilà pourquoi nous devons prier par l'Esprit. En priant par l'Esprit, on ne se trompe pas. En priant par l'Esprit, on ne se trompe pas d'ennemis. En priant par l'Esprit, on frappe dans le mille. En priant par l'Esprit, nous sommes en train d'exécuter le plan parfait de Dieu. Et nos prières ne seront plus en vain. L'Esprit. Et comment on peut faire cela, prier par l'Esprit? Et quand on prie par l'Esprit, comme ça, mais il n'y a pas que ça. L'Écriture nous dit, quand nous regardons dans le même verset, encore le verset 18, nous pouvons le regarder ensemble. Il dit, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Mais quand il nous dit « toutes sortes de prières », pourquoi il y a des chrétiens, quand ils prient 5 minutes, c'est fini, il n'a plus rien à dire. 5 minutes. On se met à prier, 5 minutes. Lui n'a plus rien à dire, il commence à s'ennuyer. Pourquoi? Je vous demande pourquoi? Qui est capable ce soir, ce matin ici là, de prier pendant 1 heure de temps? Temps dans la prière, 1 heure de temps. Alors, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de gens qui lèvent la main. Ce n'est pas pour vous vanter. Je vais dire que c'est une réalité. La prière est quelque chose de difficile. Ce n'est pas facile, le diable le sait que c'est important. C'est pourquoi il met tout des bâtons dans nos roues pour nous empêcher de prier. Il faut se discipliner pour prier. Alors, pour prier efficacement par l'Esprit, il faut connaître la parole de Dieu. Connais ta parole. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment tu vas parler à Dieu? Tu vas parler, c'est vrai, mais ça n'aura pas trop de sens d'une certaine façon. Mais quand on connaît les Écritures, on s'adresse à Dieu par l'Écriture. Vous voyez, Jésus lui-même, il parle à son Père à travers l'Écriture. Et il répond au diable à travers l'Écriture. Matthieu 4:4, quand on prend Matthieu chapitre 4, on regarde, qu'est-ce qu'il fait? Le diable vient, il le tente. Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Il dit quoi? Car il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il répond par l'Écriture, parce qu'il était imprégné par l'Écriture. Il était imbibé par l'Écriture. Alors si nous faisons cela, on pourra prier souvent. Lire les psaumes, on peut utiliser beaucoup les psaumes pour prier. Ça nous aide. Alors, passer beaucoup de temps dans la prière, c'est aussi savoir prier différentes formes de prière. Les chrétiens souvent ne connaissent qu'une forme. Savoir demander. « Seigneur, donne-moi. » Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Les prières de reconnaissance, d'action de grâce, les prières de repentance, les prières d'intercédent pour plaider pour d'autres. Quand j'intercède, je fais quoi? Je me porte dans la place de l'autre. Je me mets dans la place de l'autre. Je me mets dans les bottillons de l'autre. Je souffre pour l'autre. Sa douleur devient ma douleur. Sa souffrance devient ma souffrance. Ses peines sont mes peines. Ses joies sont mes joies. Alors je porte la personne devant Dieu et je plaide pour sa cause. Pas parce que c'est mon ami, pas parce que c'est ma femme, pas parce que c'est ma parenté, pas parce que c'est mon patron, il me paye bien un bon salaire. Non, parce que je crois à la cause. Je crois que c'est un être humain. Je crois que la personne souffre et que Dieu me donne ce fardeau-là. Je vais plaider pour la personne. Amen. Je le porte devant Dieu. Intercéder. Donc, on fait plusieurs formes de prières. Nos prières ne seront plus des souffrances, ce ne serait plus de l'agonie. Des gens disent, ah, quand je prie, cinq minutes après, je commence à penser à d'autres choses. C'est normal. Le diable va te dire, tu t'assois avec ta femme, tu veux prier. Il dit, fermez les yeux. Il dit, est-ce que vous avez du lait pour demain matin, pour les enfants? Il manque de lait. Et, bon, on va aller chercher la prière là, c'est terminé là. Eh, chérie, il n'y a pas du lait pour demain matin, et puis il fait tard, les magasins vont fermer. Pourquoi dans toute la journée, le diable ne t'a pas rappelé qu'il n'y a pas du lait pour que toi tu ailles chercher le lait? Et puis c'est là, tu veux prier, c'est là, il te rappelle qu'il n'y a pas du lait. Pas fermé. À telle personne, n'est pas. Vous voyez, ça, ce sont des distractions que l'ennemi met sur notre chemin. Et non seulement pour combattre l'ennemi, pour dominer l'ennemi, pour avoir la victoire dans le combat, pour être des chrétiens qui tiennent, qui résistent au diable et qui tiennent ferme dans le combat, c'est des chrétiens qui savent prier tout le temps, en tout lieu, qui savent prier par l'esprit et qui savent persévérer dans la prière. Prier avec persévérance. Qu'est-ce que ça voudrait dire persévérer? Un volontaire qui se lance dans l'eau. Persévérer, ça voudrait dire quoi? À ne pas lâcher. Ça, c'est bon, ça. Ne pas lâcher. Lâche pas. Nous disons cela à nos enfants. Nous disons cela à nos amis. Nous disons cela à la jeunesse. Lâche pas. Quand je vois un jeune qui étudie, il dit, c'est difficile, Adam. Je dis, lâche pas. On compte sur toi. Tu es notre relève. Tu es la future relève. Moi, il faut que quelqu'un paye ma retraite. Lâche pas. Continue. Le gars, c'est mon devoir. Je veux t'encourager. Continue. Lâche pas. Encourage de ne pas lâcher. Parce que dans la société, il y a beaucoup de jeunes qui abandonnent en chemin. On les appelle les décrocheurs, non? Ils ont décroché, ils ont lâché. Alors nous devons les encourager à monter. Donc dans la prière, quand on persévère dans la prière, je ne lâche pas, je tiens ferme. Et nous voyons cela dans Luc 18, Dieu parle de la veuve qui va devant un juge injuste. Et elle frappe à la porte du juge. Elle demande. Souvent, les gens essayent de comprendre que ça veut dire, ouais, Dieu est méchant comme ce juge. Non. Le rapport de ça, là, c'est une parabole. Simplement, Jésus veut mettre l'accent sur la persévérance de la femme. C'est la persévérance qui met l'accent dessus. Le reste, là, ce n'est pas important. L'accent est mis sur la persévérance, le dévouement de la femme. Elle continue. Elle ne lâche pas. Elle est tenace. Elle tient son bout. Elle persévère. Elle demande. Et jusqu'à ce qu'elle obtienne justice. Quand nous persévérons dans la prière, le diable ne peut rien contre nous. Quand nous persévérons dans la prière, toutes les portions de notre vie qu'on a réussi à avoir la victoire dessus, les péchés dans notre vie qu'on a réussi à avoir la victoire dessus, on les maintient et on persévère dans la prière pour les maintenir. Si tu dis, ah bon, maintenant, Seigneur, tu sais, je buvais un casier de bière, mais maintenant j'en bois 10, ben, c'est correct. J'ai beaucoup évolué. Ok, je n'ai plus besoin de prier. Alors, je suis un ancien alcoolique. Pour moi, l'alcool était très, très dangereux pour ma vie. Mais maintenant, ben, j'ai la victoire dessus. Je n'ai plus besoin de prier. Je prie mes claques et puis claques. Seigneur, merci. Tu m'as aidé. Mais maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Tu restes dans le tiroir jusqu'au jour où j'aurai besoin de toi. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Alors, ta vie de prière ce matin est comment? À quoi ressemble ta vie de prière, ta vie de combat comme chrétien, ma vie de combat comme chrétien, notre vie de combat comme une communauté de Dieu qui doit impacter la communauté du Cap de la Madeleine. Nous nous sommes donné comme vision d'avoir l'impact sur notre communauté. Une église accessible, une église communautaire, une église qui n'a pas froid aux yeux, qui avance, une église qui a de la compassion pour les autres. Et on s'est donné cette vision-là. Alors, quel est l'état de notre prière? À quoi ressemble notre vie de prière? Combien de temps passons-nous dans la prière? Quand tu pleures que tes enfants ne suivent pas le Seigneur, combien de temps tu as pris dans la prière pour eux? Ta femme est partie ou ton mari t'a abandonné. Combien de temps tu as mis dans la prière pour cette cause-là? Tu as fléchi les genoux. Tu passes combien d'heures à la télévision? Combien d'heures devant Nintendo? Combien d'heures à faire les choses du monde? Mais tu passes combien de temps dans la prière? Je ne veux pas culpabiliser personne. Je veux savoir qu'il y a certaines personnes aussi qui prient, mais que des choses arrivent. Mais je veux dire, est-ce que vraiment nous mettons du temps dans la prière si nous croyons à la prière? Si nous croyons à la prière, je vous assure, on laissera beaucoup de choses pour investir plus de temps dans la prière. Persévérer, c'est tenir ferme, ne pas lâcher, avancer malgré les obstacles, tenir malgré les souffrances, tenir malgré la maladie, tenir malgré tout ce que nous vivons comme difficulté. la vie est dure en elle-même. Sans Dieu, c'est compliqué. Avec Dieu, ça marche bien. Alors si nous-mêmes, on ne court pas pour demander le recours de Dieu, le secours de Dieu, je pense qu'on se tire dans les pieds nous-mêmes. On devrait passer plus de temps dans la prière. La salle de prière en haut ici, des fois, il n'y a que quelques poignées de personnes qui viennent prier. J'ai dit, mais où sont tous ces retraités qui ont pris la retraite? Elles sont où? Quand ils travaillaient, je n'ai pas le temps pour venir, j'aimerais venir, je ne peux pas. Je suis trop occupé, je travaille trop. Maintenant, tu es à la retraite, on ne te voit pas. On ne te voit pas. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de venir prier? Oh, mais j'ai trop de choses, je vais aller voir si, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça, je vais aller faire ça. C'est bien de faire tout ça. Mais quel est ton impact, ton implication dans ton église locale? Quelle est ton implication dans la communauté? Quelle est ton implication auprès des autres? Je comprends qu'on doit aider tout le monde, qu'on ne peut pas être partout. Je comprends qu'on doit profiter un peu de notre retraite. Mais moi, je crois que la meilleure façon de profiter de sa retraite, c'est d'être auprès du Seigneur. Dans la prière, dans la parole, toutes les années que tu n'as pas pu lire la parole, pendant que tu courais après le travail, maintenant tu as tout le temps pour pouvoir lire, pour prier, pour visiter les frères et sœurs, pour encourager, pour faire beaucoup de choses. Mais où c'est? Mais on court derrière d'autres choses. L'Écriture nous dit de prier, persévérer, que c'est important. Veillez à cela avec une entière persévérance, parce que ce n'est pas facile. Il faut veiller, il faut continuellement revenir à la charge et continuer jusqu'à ce que ça marche. Qu'on ne lâche pas. Persévérer. La persévérance, c'est le secret des vainqueurs. La pierre angulaire de tout succès et de toutes les victoires. La persévérance. Quelqu'un qui ne persévère pas ne peut pas voir certaines choses. Quand tu bâtis une maison, si tu ne persévères pas, tu ne verras pas la fin. Si tu as fait un champ, un fermier qui fait un champ, s'il ne persévère pas, il ne récoltera pas de la semence, n'est-ce pas? Alors donc, nous devons persévérer. Prier pour tous les saints. Ça, c'est la requête. Un chrétien qui veut résister dans le combat, qui veut persévérer dans le combat et demeurer ferme dans le combat, être victorieux ou garder la victoire dans le combat en Jésus-Christ, doit non seulement prier en tout temps, prier en tout lieu, prier par le Saint-Esprit, persévérer dans la prière, mais aussi prier pour les saints, prier pour les frères et sœurs. Quand je me préparais pendant la semaine, ma femme a lu le pain quotidien. Elle m'aide beaucoup. Merci Anne pour ton soutien. Heureusement que tu es là. Hein? Merci. Et elle a lu quelque chose, s'est tombée sur la prière. Elle dit, Adama, je viens de lire ça. Est-ce que tu veux le regarder? J'ai dit, s'il te plaît, je suis tellement occupé là. Peux-tu me donner les grandes lignes? Explique-moi. Elle m'a rappelé et expliqué ça rapidement. Un enfant qui allait tous les jours à l'école et sa maman est une chrétienne dans sa famille. Quand le petit va partir à l'école, sa maman le prend toujours. Elle prie pour lui. Elle dit, viens, je vais prier pour toi. Vous savez ce qui se passe? L'enfant sort, il va dehors, il voit ses camarades et dont les parents ne sont pas chrétiens. Il prend ses camarades, il les amène à la maison. Elle dit, maman, il faut prier pour eux parce que leur maman n'est pas chrétienne. Parce que eux-là, personne n'a prié pour eux. J'aimerais que tu pries pour eux. Qu'elle nous enseigne que ce que les parents que nous sommes, nous faisons a de l'impact sur nos enfants. Et tu deviens un modèle dans la prière pour tes enfants et tes petits-enfants. Tu deviens un modèle dans tout ce que tu fais. Si tu négliges la prière, tu négliges la lecture de la parole de Dieu, tu es en train de dire à ta progéniture que ce n'est pas important. Mais tu le parles, blablabla, mais dans la réalité, tes actions disent tout le contraire. Tu dis à tes enfants, ça là, on va à l'église, on punch et puis on rentre chez nous. Ce n'est pas grave. Si c'est ça tu crois, je pense que tu devrais changer ta façon de penser. Parce que moi, Adama Diko, je n'ai pas quitté l'islam pour venir faire de la comédie. Quand je suis devenu chrétien, c'est parce que je crois à la cause. Je crois à la parole de Dieu. C'est la vérité. Personne ne peut me l'enlever cela. Je crois à ça comme du fer. Je crois à cela parce que j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. J'ai vu quand j'ai prié, Dieu a décanté des situations. Je crois que la prière peut changer la vie. La prière a changé ma vie, ma condition. Je sais que Dieu peut faire la même chose pour chacun de vous. Il est prêt à faire la même chose pour chacun de vous. Tenir debout pour cela. Prier pour tous les saints, c'est prier pour tous les frères. Pas prier pour seulement pour ceux que tu aimes. Oh, lui, il a sa face, je n'aime pas sa face. Il me dérange, il m'énerve. Je ne veux pas prier pour lui.
Si tu veux prier pour eux, Seigneur, il faut le tuer. Seigneur, il ne faut pas qu'il réussisse dans ses affaires. Tu as le goût de dire ça dans tes prières, mais tu es gêné de dire ça. Peut-être même en secret, tu le dis. Mais ça, ce n'est pas chrétien. Un chrétien, il bénit même quand on le maudit. Amen. C'est ce que l'Écriture nous dit. Je dois bénir même quand on me maudit. J'ai été béni pour bénir. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une bénédiction pour toutes les nations. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Donc, en tant que chrétien, je suis une bénédiction de la part de Dieu pour mon entourage, pour mon peuple et pour tous ceux que je rencontre. Donc, je ne peux pas maudire, je dois bénir. Même si la personne me tape sur les nerfs, ce n'est pas le petit nerf, le gros nerf. Tu dois bénir. Amen. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Paul demande qu'on prie pour lui, mais je vais terminer par ce message. Paul dit qu'on prie pour lui, il ne demande pas qu'on prie pour qu'il sorte de la prison. Il dit qu'on prie pour que sa bouche s'ouvre pour pouvoir proclamer la parole de Dieu. Quand prenons-nous pour prier pour nos évangélistes, pour les gens qui sont sur le champ missionnaire, pour les gens qui sont dans notre église, dans notre province, qui parlent de Dieu, pour les gens de l'heure de la bonne nouvelle. Je ne sais pas, ce matin, on vous a donné dans vos pamphlets, vous avez reçu réellement un papier avec des carrés dedans, un programme, un tableau que j'ai fait faire pour mettre dans l'écho. Tout le monde a reçu ça? Hein? Ça est dans l'écho? Bon, merci à notre sœur Christine Lorrain, à notre sœur Madame Fortin, Suzanne Fortin, comme je dis, et à Brigitte, et tant d'autres personnes qui travaillent dans ce département-là, qui ont permis qu'on puisse produire cela. Alors, j'ai fait ça exprès pour vous encourager. Peut-être que tu ne sais pas comment prier, peut-être que les sujets sont flous dans ta tête. J'ai trouvé ce document-là quelque part, et j'ai pris et je l'ai adapté à notre besoin, à l'Assemblée chrétienne du Cap, et à notre région à peu près. Donc, tu pourras prendre ça, affiche-le sur ton bureau. Mets-le où dans les toilettes, si c'est là que tu te sens bien, accroche-le aux toilettes quand tu es assis sur le trône, puis tu pries. Si c'est dans le garde-robe, là, comme on dit, war room, là, fais-le là-bas. Si c'est dans ton auto, en tout cas, en tout lieu, tu peux utiliser ça pour prier. Alléluia! Et c'est ça. Alors, ce que j'aimerais vous dire, l'appel à la prière. Il dit, personne n'est plus grand que sa vie de prière. Le pasteur qui ne prie pas s'amuse et les gens qui ne prient pas s'égarent. L'église moderne est pauvre et faible. Il y a beaucoup de gens pour organiser, mais peu pour agoniser. Beaucoup pour s'amuser, mais peu pour prier. Beaucoup pour flâner, mais peu pour lutter. Beaucoup de superficialité, mais peu de spiritualité. Beaucoup de gens pour contester, mais peu pour intercéder. Les deux choses indispensables à la vie de chrétienne victorieuse, à une vie chrétienne victorieuse, sont la vision et la passion qui naissent tous deux et qui naissent et s'entretiennent tous deux dans la supplication. Le ministère de la parole est donné à quelques-uns. Celui de la prière, est la plus importante, est donnée à tous. Ce monde avance vers un enfer, vers l'enfer à une vitesse vertigineuse. Et cependant, plusieurs d'entre nous seraient incapables de se souvenir de leur dernière veille de prière en faveur de ce pauvre monde. Il nous manque de compassion et d'inspiration. Nous confondons action et onction. Agitation et réveil, décision et conversion. Le secret de la prière, c'est la prière en secret. Celui qui vit dans le péché cessera de prier et celui qui prie cessera de pécher. Nous sommes pauvres et faibles, mais non brisés, misérables, mais non humiliés. On ne peut nier que le problème des églises modernes est souvent le problème d'argent. Ce qui nous trouble sur le plus aujourd'hui était le moindre des soucis de l'Église primitive. Eux, ils mettaient l'accent sur la prière, mais nous mettons l'accent sur l'action. Nous avançons en payant, mais eux, ils secouaient le monde en priant. Ils secouaient le monde. En bon québécois, ils brassaient le monde en priant. Rien ne peut remplacer la prière fervente, nous y consacrons ou nous périssons. Un homme n'est jamais plus grand que lorsqu'il est sur ses genoux. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin te dire merci pour ce temps que tu nous as donné. une église qui t'appartient, un peuple qui t'appartient. Nous voulons nous repentir, moi le premier, avec mes frères, au nom de tous les leaders et tous les anciens de l'église, et au nom de tous mes frères et toutes mes sœurs, te demander pardon pour toutes les fois où on a négligé la prière. Ton serviteur Samuel disait, loin de moi de pécher contre l'Éternel et de cesser de prier. Mais nous voudrons être des hommes et des femmes qui prient. Nous te demandons pardon toutes les fois où nous avons négligé la prière. Pour nous-mêmes, pour maintenir une relation et un feu entre toi et nous. Mais pour le peuple de Dieu, pour les perdus, et pour nos amis, pour notre entourage. Et même pour ceux qui pensent être nos ennemis. Seigneur, toutes les fois où nous n'avons pas fait, nous avons péché contre toi. Et nous voudrons, Seigneur, dans l'humilité, te demander de nous faire grâce. Pardonne-nous, s'il te plaît. Lave-nous, purifie-nous. Alors allume de nouveau un nouveau feu en nous. Une nouvelle passion qui ne s'éteint pas. Et ce feu qui va brûler sur notre autel. Et là où la prière sera centrale. Où tenir une relation vivable avec toi, Seigneur, sera la priorité des priorités. Seigneur, fais-nous du bien. Pour la gloire de ton nom, accompagne ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen.